Vous écoutez Radio France Internationale et vous avez bien raison, il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel lors d'un nouveau journal.
Stéphane Genest.
Bonsoir à toutes et à tous, et à la une de cette édition, le bilan s'alourdit en Espagne avec au moins 205 morts 3 jours après les pluies diluviennes qui ont ravagé le sud-est du pays. De très nombreuses personnes sont toujours portées disparues, les recherches se poursuivent. On sera aussi en Allemagne puisqu'à partir d'aujourd'hui, changer de genre est beaucoup plus simple. Une simple déclaration à l'état civil suffit désormais, l'Allemagne qui rejoint ainsi le club de pays ayant adopté une législation libérale dans ce domaine. Au sommaire également, le Japon et l'Union européenne qui annoncent un nouveau pacte de sécurité et de défense. Et puis du tennis, puisque les Masters 1000 de Paris se poursuivent avec le Français Hugo Humbert en ce moment face à l'Australien Thompson. Il vient de décrocher son ticket pour les demi-finales. Le bilan ne cesse de s'alourdir dans le sud-est de l'Espagne après les dramatiques inondations qui ont frappé la région de Valence. Au moins 205 personnes y ont perdu la vie. Un bilan provisoire qui est amené à augmenter dans les prochaines heures en raison du nombre de disparus. Des renforts militaires sont déployés pour trouver des survivants et accompagner les rescapés. Et dans certaines communes, après le choc et les dégâts matériels, les opérations de nettoyage ont déjà commencé. C'est un reportage de Pauline Glaise à quelques kilomètres de Valence.
À l'entrée d'une rue à l'horizon bouché par un enchevêtrement de voitures, Victor Frau s'affaire dans sa maison. La marque laissée par la boue sur les murs est tellement haute qu'il faut du temps pour la repérer.
L'eau est arrivée à 2 mètres de hauteur. Elle a arraché le cadre de la baie vitrée. Regardez où sont les vitres.
Ses filles étaient présentes quand la vague est arrivée.
La famille est montée à l'étage. Je ne sais pas ce qu'il serait arrivé sinon. Une dame âgée en face n'avait pas de premier étage. Des voisins l'ont sortie de là avec une corde. Sans ça, elle serait morte.
Des dégâts purement matériels donc, mais d'ampleur.
Hier, il y avait de l'eau ici. On a évacué cette partie et là, on enlève les meubles. On va nettoyer et attendre que l'assurance vienne. Et il faudra tout recommencer. C'est un projet qui nous a pris 6 ans et il faut tout recommencer. Mais bon, la famille va bien.
Pas toujours dans une mare debout, Victor Frau continue de vider le salon sans dessus-dessous. Une horloge fendue, style Salvador Dali, accrochée au mur, prend une autre dimension. Le temps, les semaines qui viennent, ne suivent plus leur cours normal.
Elles vont être dures, surtout au niveau psychologique, parce que ça vous submerge et il faut lutter, et c'est difficile.
Les allers-retours, piles de livres et étagères en main vers la mât d'encombrant sur le trottoir, lui aussi physiquement. Pauline Glaise, près de Valence, RFI.
Direction l'Allemagne à présent, puisqu'il est désormais plus simple de changer de genre dans le pays, cela grâce à l'entrée en vigueur ce vendredi d'une loi adoptée au printemps dernier. Elle prévoit une simple déclaration des personnes concernées à l'état civil, l'Allemagne qui dispose désormais d'une législation libérale, comme une dizaine d'autres pays européens. Explication à Berlin, signé Pascal Thibault.
La Cour constitutionnelle allemande avait à plusieurs reprises dans le passé critiqué l'ancienne loi datant du début des années 80. Un changement de genre à l'état civil impliquait des expertises psychologiques intrusives pour les personnes concernées et coûteuses. La décision finale revenait après un long délai à un juge. La loi a été dénoncée depuis des années par les personnes concernées. Le nouveau texte prévoit qu'une simple déclaration, l'état civil, sera désormais suffisante pour changer de genre. Elle sera officialisée après un délai de 3 mois. Depuis le 1er août, des pré-enregistrements pouvaient être effectués. 15 000 personnes y ont eu recours, d'après le magazine Der Spiegel. Pour les moins de 14 ans, seuls les parents ou tuteurs pourront engager une procédure. Les mineurs entre 14 et 18 ans pourront le faire eux-mêmes, mais seulement avec le consentement de leurs parents. Un sondage publié hier montre que près de la moitié des Allemands soutiennent la nouvelle loi. 37% y sont en revanche opposés. C'est le cas dans la sphère politique des chrétiens-démocrates et de l'extrême droite. Pascal Thibault, Berlin RFI.
Autre titre de l'actualité de ce vendredi, ce sont ces derniers jours de campagne électorale aux États-Unis. Les Américains qui votent ce mardi pour élire leur président ou leur présidente. La démocrate Kamala Harris et le républicain Donald Trump poursuivent au pas de charge leur intense duel à distance pour la Maison-Blanche sans trop s'éloigner, puisque les deux candidats ont chacun donné rendez-vous à leurs partisans à Milwaukee. Tout à l'heure, Milwaukee, c'est la plus grande ville du Wisconsin. Le Japon et l'Union européenne qui annoncent ce vendredi à Tokyo un nouveau pacte de sécurité et de défense, accord qualifié d'étape historique par le chef de la diplomatie européenne. Josep Borrell et son homologue japonais ont dévoilé ce pacte qui prévoit, selon des médias locaux, davantage d'exercices militaires conjoints, un dialogue au plus haut niveau et une coopération dans le domaine de l'industrie de la défense. Une étape importante pour Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne.
We live in a very dangerous world.
Nous vivons dans un monde très dangereux. Nous vivons dans un monde de rivalités croissantes, d'accidents climatiques et de menaces de guerre. Et il n'y a qu'un seul antidote à ce monde, ce sont les partenariats entre amis. Aujourd'hui, nous ouvrons un nouveau chapitre de nos relations, un nouveau chapitre qui ne porte pas sur le commerce ou l'économie, mais sur la sécurité et la défense. Je suis extrêmement heureux d'être ici, avec le ministre Iwaya, pour annoncer la conclusion de ce partenariat de sécurité et de défense entre l'Union européenne et le Japon. C'est le premier accord de cette nature que nous concluons avec les pays de l'Indo-Pacifique. Il est très important parce que nous sommes pleinement conscients que l'Indo-Pacifique sera le théâtre où l'histoire de l'humanité s'écrira au cours de ce siècle.
Dernière ligne droite de la COP 16, biodiversité. La présidence colombienne de cette COP a mis sur la table trois textes sur les trois principaux enjeux des discussions entre les plus de 190 pays qui sont présents en ce moment à Cali, en Colombie. Premier texte sur le mécanisme d'évaluation des feuilles de route qui fournissent les pays pour préserver la nature. Le deuxième, lui, s'attarde sur la mobilisation des financements. Et le dernier sur le partage des bénéfices tirés des données génétiques numérisées des plantes et des animaux. Ces éléments restent des propositions et ne constituent pas le texte final. Les chefs de délégation sont en ce moment réunis à un porte-close pour négocier. Les consultations, elles, vont donc continuer avant une séance plénière, la séance plénière qui est prévue dans 3 heures maintenant pour voter ces différents textes. Les Français boudent l'industrie automobile pour un 6e mois consécutif. La vente de voitures neuves continue de chuter avec une baisse de 11% en octobre par rapport à la même période de l'année dernière. La sortie de route est encore plus impressionnante pour les véhicules électriques, -18%. En voilà un coup dur pour les constructeurs qui comptent sur ces modèles. Pour respecter les normes européennes d'émissions de gaz à effet de serre, elles seront encore renforcées dans 2 mois à partir de 2025. Et les groupes automobiles craignent de ne pas être à la hauteur des attentes, Gali Bonin.
À partir du 1er janvier, les voitures vendues en Europe devront émettre en moyenne moins de 94 grammes de CO2 par kilomètre, un seuil que même les véhicules hybrides peinent à atteindre. Exemple, la Clio hybride de Renault est à 95 grammes par kilomètre et le modèle thermique à 120. Avec le ralentissement des ventes de l'électrique, impossible pour les constructeurs de respecter la nouvelle norme. Deux choix s'offrent à eux, payer les pénalités ou couper dans les ventes de voitures thermiques. Des coupes qui entraînerait la fermeture de 7 à 8 usines automobiles en Europe, estime le directeur de la filiale électrique de Renault. Autre possibilité, acheter des crédits carbone aux constructeurs moins polluants comme Tesla ou Volvo, ce qui revient en fait à financer ses concurrents. Face à ces dilemmes, Volkswagen et plusieurs groupes demandent à Bruxelles de réviser ses objectifs pour 2025, mais Stellantis, lui, s'y oppose. Ces normes ne sont pas apparues du jour au lendemain, affirme le numéro 2 européen, qui mise sur une toute nouvelle gamme de véhicules électriques et hybrides pour gonfler ses ventes.
Gali Bonin, place à présent à l'actualité sportive avec un petit mot de football. La 10e journée de Ligue 1, elle a commencé tout à l'heure par la victoire d'Angers à Monaco, 1-0. En ce moment, Lille reçoit Lyon, ça joue depuis 9 minutes, 0 partout. Et puis du tennis, avec les quarts de finale au Masters 1000 de Paris-Bercy qui viennent de s'achever pour le Français Hugo Humbert. Et il a décroché son ticket pour les demi-finales après sa victoire face à l'Australien Jordan Thompson, Eric Menrut.
Oui, la belle aventure du Messin se poursuit. Il s'est débarrassé du 28e joueur mondial, Jordan Thompson, en 2 manches, 6-2, 7-6. Une démonstration dans la première manche, comme hier face à Alcaraz. C'était plus compliqué dans la deuxième, où il a eu 2 balles de match à 6-2, 5-4. Bien sauvé par l'Australien, qui a breaké dans la foulée. Hugo Humbert, ensuite, qui fait appel au kiné. Grosse inquiétude, mais non, il parvient à revenir à 6 jeux partout, à décrocher un jeu décisif au cours duquel il gagne un point, notamment après avoir envoyé 3 smashs de Thompson personnes, le tout dans un Bercy en délire. Évidemment, il parvient à arracher ce tie-break. 7 points à 4 pour ce ici, pour la première fois de sa carrière à une demi-finale de Masters 1000. Ce sera demain face au vainqueur du dernier quart de finale qui va débuter de quelques instants entre Dimitrov et Khachanov.
Eric Lemruth en direct de Bercy pour RFI. Merci Eric, 21h10 ici à Paris.